Chapitre 7. Du Châtelier avait conservé un emploi qui, pendant longtemps, a été en honneur dans l'ancien théâtre, celui d'orateur de la troupe. Et c'était lui, naturellement, qui le remplissait. Jamais une représentation ne se terminait sans que, pendant l'entracte, entre la grande pièce qui venait de finir et la petite qui allait commencer, il ne vînt haranguer son public. « Mesdames, messieurs !» C'était son triomphe, surtout si sa tenue analogue au sujet lui permettait de déployer toute la grâce et toute la noblesse de ses manières. Dans « Il y a 16 ans », sa tenue, habit de conseiller d'État avec l'épée, était justement à souhait pour échauffer son éloquence, et jamais il ne trouvait de plus belle chose que lorsqu'en parlant, il pouvait appuyer la main sur la poignée de cette épée. De plus, il avait ce soir-là un public de choix. Tous se trouvaient donc réunis pour l'inspirer. « Mesdames, messieurs, c'est un devoir doux pour mon cœur de vous remercier de l'empressement que vous avez mis à saluer notre arrivée dans vos murs. » Puis, après s'être acquitté de ce qu'il devait au public, il entama ce qu'il devait aux acteurs. À l'amateur de la ville d'abord, qui, dans le rôle du caporal, avait déployé un comique si fin. « Bravo, le marchand de moutarde ! Il ferait mieux de brûler son café !» Ces interruptions n'avaient pas coupé le fil du discours de Duchâtelier. Après le dîner de Madelon, il en était venu à, il y a 16 ans, et au triomphe remporté par Mademoiselle Zitte, sa fille et son élève. Sa fille, son élève, que dire de plus ? Telle est la situation que je ne puis faire l'éloge de la fille sans faire en même temps celui du père, celui de l'élève sans parler du professeur. Je ne dirai donc rien d'elle ni de lui, vous les avez applaudis tous les deux. « Quel vieux cosaque !» interrompit le duc, comme il tire la couverture à lui. Cependant, Duchâtelier voulut bien faire une part aux autres sujets de sa troupe, mais plus succinctement, et il arriva à l'annonce du spectacle du lendemain, qui se composerait de M. Jovial ou l'huissier chansonnier, comédie vaudeville jouée par M. Théodore, et de La Grâce de Dieu, le drame populaire admiré de tout Paris, dans lequel Mademoiselle Zitte, ma fille et mon élève, étaient incomparables. « Si nous venions demain voir la grâce de Dieu, » dit Gaston. « Quelle idée !» répondit le duc. « Alors, c'est de la passion ?» demanda Bachelet en riant. « Qu'est-ce qu'on va donner maintenant ?» demanda Gaston à la pharmacienne. « Théodore va chanter la légende du grand étang. Il est très bon !» Pendant qu'il gagnait la sortie, la toile se leva et, au moment où ils ouvraient la porte, Théodore commençait. « Petits enfants, n'approchez pas du grand étang qu'on voit là-bas. » La boutique du marchand de vin restait ouverte pour abreuver les spectateurs que les larmes auraient desséchées, éclairait faiblement de quelques traînées rouges la rue sombre sous le ciel plein de nuages noirs. Cette lueur leur permit de se reconnaître et de gagner l'auberge où leur voiture les attendait. « C'est sérieusement que vous parlez de revenir demain ?» demanda Bachelet. « Demain, je serai à la chambre, » dit le duc. « Il y a une séance importante. » « Voilà ce que je ne peux pas comprendre, » dit Bachelet en riant. « C'est que, pour vous, il y ait une séance importante. Je n'ai pas été souvent à la chambre, qui est un endroit peu récréatif, mais chaque fois vous m'avez empli d'admiration par votre manière de vous tenir au milieu de ces agités. Ils sont tous si affairés, si importants, vos honorables collègues, et vous leur ressemblez si peu, renversés à votre place, les yeux au plafond, les mains dans vos poches, l'air impassible, ennuyés, méprisants, n'écoutant personne, ne regardant rien, détachés de tout, désintéressés des hommes comme des choses, indifférents, glacial, hautain, que je vous trouve très chic, ma parole d'honneur, très chic. Il n'y a pas de discours qui en dise aussi long que votre simple attitude. » « Et vous, Bachelet, vous ne m'abandonnerez pas, j'espère, » dit Gaston. « Oh, moi, cela dépend. S'il gèle, je pars. Mais s'il dégèle, je reste tant que notre piste ne sera pas plus avancée. » C'était en effet pour tracer une piste d'entraînement sur laquelle il pourrait dresser ses chevaux de chasse quand cette saison d'hiver, Gaston était venu au château. Le duc l'avait accompagné pour veiller à ce que les plantations de ce parc, dont il espérait bien hériter un jour, fussent ménagées et qu'on ne passât pas à travers des massifs d'arbres qui seraient saccagés. Quant à Bacholet, il avait quitté Paris parce qu'un de ses amis ne pouvait pas tracer une piste sans mettre à contribution les connaissances spéciales qu'il avait en cette matière, comme en toutes celles qui touchaient aux choses du sport. M. Gaston Chamontin fait en ce moment tracer dans son parc des bords de la Marne une piste d'entraînement pour ses chevaux de chasse. Ce travail s'exécute sous la direction de M. Bacholet, dont la compétence est bien connue. Il plut dans la nuit et, le lendemain, après le départ du duc pour Paris, les deux amis passèrent leur journée à surveiller les travaux de la piste. Si la terre n'était pas encore assez amollie pour qu'on pût creuser les fossés, au moins pouvait-on enfoncer les piquets, planter les haies de genêt, gazonner les douves et les banquettes. Chaussés de bottes de chasse, vêtus de vestons chauds, coiffés de toques de fourrure, ils arpentaient les pelouses détrempées, descendant des bois de la colline aux prairies de la rivière, pour remonter de la rivière à la colline. Bacholet, qui prenait au sérieux la haute compétence qu'il s'attribuait, n'aurait pas permis qu'une haie fût posée sans qu'il en eût mesuré la hauteur ou l'inclinaison. Pendant toute cette journée bien remplie, il ne fut donc question ni de Zide, ni du théâtre de Duchâtelier, mais quand la nuit les obligea à rentrer, ils se trouvèrent désœuvrés. Quoi faire? Jouer aux cartes, au billard? C'est quand il y avait une galerie pour le regarder que Bacholet aimait jouer. En tête-à-tête avec un ami, le jeu, depuis longtemps déjà, ne lui inspirait plus que de l'ennui. Lire? Les journaux n'arrivaient pas au château en cette saison, et les livres qu'ils auraient pu prendre dans la bibliothèque ne leur disaient rien, ça manquait d'actualité, de nouveautés, des bouquins. Ils n'avaient donc qu'à se chauffer devant la haute cheminée du fumoir, en piochant les bûches à coups de pincette pour en tirer un pétillement d'étincelles, et cette récréation, qui ne tardait pas à devenir monotone, ne pouvait pas les occuper jusqu'à l'heure du coucher. Bien qu'un personnel de domestique restât au château l'hiver pour servir M. Chamontin quand celui-ci venait visiter ses moulins, elles étaient tristes et froides, ces grandes pièces inhabitées. Ce n'était pas le feu allumé depuis 2 jours dans quelques cheminées qui pouvait les échauffer, pas plus que ce n'était le pas discret de 3 ou 4 domestiques qui pouvait leur donner la vie. À un certain moment, Bacholet regarda la pendule. « Encore 45 minutes avant le dîner, » dit-il en s'étirant. « Voulez-vous que je le fasse avancer ?»« À quoi bon? Les minutes sont aussi longues après le dîner qu'avant. » Et il fourgonna le feu, puis il se mit à marcher en long et en large, s'arrêtant de temps en temps pour suivre les ombres que le feu dessinait capricieusement sur les panneaux de laque encastrés dans les lambris du fumoir. Un domestique ne tarda pas à venir annoncer que le dîner était servi. « Si nous dînions lentement, » dit Bacholet. Gaston commanda qu'on ne pressât pas le service. « Quel malheur qu'on ne puisse pas manger toujours, » dit Bacholet. « C'est encore la façon la plus agréable de tuer le temps. » Mais, comme il le disait si justement, on ne peut pas toujours manger, et il arriva un moment où, malgré les lenteurs du service, le dîner s'acheva. « Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ?» demanda Gaston lorsqu'ils rentrèrent dans le fumoir. « Est-ce que nous n'allons pas au théâtre ?»« Je craignais de vous ennuyer. »« C'est toujours un moyen de passer la soirée. »« Je vais commander Conatel, » dit Gaston avec une vivacité significative. Quand ils entrèrent dans la salle, M. Jovial finissait. Cette fois, les applaudissements furent pour Théodore. Parmi les femmes qui applaudissaient avec le plus d'enthousiasme, Gaston en remarqua une en grand deuil qui, avec la poitrine et les épaules plaquées de jais, avait tout l'air d'une bourgeoise cossue. Non contente de claquer des mains, elle tapait des pieds en criant « Bravo, Théodore !»« Voilà une grosse mère qui n'a pas peur de se mettre en avant, » dit Bacholet. Pendant l'entracte, ils eurent l'explication de cet enthousiasme. Elle leur fut donnée par la pharmacienne devant laquelle ils étaient assis comme la veille. Elle raconta à ses voisins que cette grosse mère si démonstrative était la femme d'un entrepreneur chez lequel Théodore avait travaillé autrefois de son métier de peintre. Ils avaient été assez bien ensemble, racontait-on, pour que le patron eût mis son ouvrier à la porte. Maintenant, veuve depuis quelques mois et libre, elle venait voir son ancienne amie. Son mari, en mourant, lui avait laissé une belle fortune et une maison de campagne à Nogent. Ce n'était pas précisément pour admirer Zide que Gaston avait voulu venir à cette représentation, tout au contraire. Quand il avait pensé à elle dans la nuit et dans la journée, il s'était dit qu'il serait ridicule qu'un homme comme lui se laissât émouvoir par une saltimbanque comme cette petite. Mais quand il la vit paraître dans son costume de savoyarde, si jeune, si simple, si pleine d'innocence et de modestie, avec ses grands yeux de gazelle tendres et inquiets, il sentit au battement de son pouls que cette émotion précisément se produisait en lui. C'était un aimable garçon qu'il avait vu la veille, maintenant c'était une charmante fille qu'il avait devant les yeux. Elle était tout à son avantage dans sa toilette de villageoise. Sa jupe courte, ses bas bleus, ses gros souliers, son bonnet de toile donnaient par le contraste toute leur valeur à la finesse de son pied et de sa jambe, à la sveltesse de sa taille, à la pureté et à l'élégance de ses traits. « C'est vrai qu'elle est jolie fille, » dit Bachelet, « très jolie. » Elle n'était pas seulement jolie dans ce rôle, elle y mettait une innocence, une ingénuité, une décence qui, à l'acte où elle se déshabille pour se coucher, enlevant les unes après les autres les différentes pièces de ses vêtements, son fichu, sa robe, sa guimpe, arracha une exclamation à Bachelet. « Comme c'est gracieux, une jeune fille qui se déshabille !»« Je n'imaginais pas qu'on pût y mettre tant de décence !» Plusieurs fois dans le cours des premiers actes, Gaston avait remarqué qu'elle jetait de leur côté un rapide coup d'œil, comme pour se rendre compte de l'effet qu'elle produisait sur eux. Mais pendant cette scène, il remarqua au contraire qu'elle évitait, avec une sorte d'inquiétude, de tourner les yeux vers leur place. Non seulement il ne croisa pas son regard une seule fois, mais encore il semblait qu'elle jouât sans regard. « On croirait que ça la gêne de se déshabiller, » dit Gaston en se penchant vers Bachelet. « Tout ce que vous voudrez, cher ami, mais pas ça. » La pièce continua, et jusqu'à la fin, il ne fut plus question de Zite entre eux, même quand le rideau baissa et se releva pour un rappel, ni Gaston ni Bachelet ne dirent rien de leurs impressions. Ce fut seulement quand ils s'installèrent dans le coupé qui les attendait à la porte du théâtre que Bachelet, obéissant bien manifestement à sa préoccupation, revint à la jolie fille. « Alors, mon cher, vous ne me dites pas ce que vous voulez faire de cette petite. Et que voulez-vous que j'en fasse ?» « Allons donc. Très franchement, que voulez-vous que j'aie idée de faire d'une fille que je ne connaissais pas il y a 2 jours et que je vois aujourd'hui pour la seconde fois ? Faut-il plusieurs semaines pour devenir amoureux d'une fille quand elle est jolie comme celle-là ? Mais je ne sais rien d'elle, si ce n'est qu'elle joue la comédie. Fort agréablement, ma foi. Et qu'elle vit avec ses parents. Elle peut être honnête. Dans ce monde-là... Justement, ce monde-là suffirait pour m'arrêter au cas où je voudrais faire d'elle quelque chose, comme vous dites. Me voyez-vous l'amant de Mademoiselle Zite, premier sujet du grand théâtre du Châtelier ? C'est-à-dire que si elle était premier sujet de la Porte Saint-Martin ou du Gymnase, les raisons qui vous arrêtent n'existeraient pas. Alors, elles sont bien faibles, car enfin, pour nous autres, il n'y a que 2 sortes de maîtresses, celles qui nous lancent, les vieilles, et celle que nous lançons, les jeunes. Celle-là est assez jolie et a assez de talent pour vous faire honneur. Que faut-il pour cela ? Tout simplement qu'elle ne reste pas la pauvre petite comédienne de village qu'elle est en ce moment. Et c'est notre affaire. Le jour où elle paraîtra sur un théâtre digne d'elle, vous verrez quel chemin elle fera. On arrivait à la grille du château, la conversation en resta là. Et comme le lendemain, Bachelet partit avant le déjeuner pour Paris, elle ne reprit point.